Merci d'écouter RFI. Les 7h à Paris, 10h à Bakou, 15h à Tokyo.
RFI Matin.
Et tout de suite, le journal. Bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. Et à la une, la COP29 qui s'ouvre aujourd'hui à Bakou, en Azerbaïdjan. Reportage dans un instant. À Lahore, la province du Pendjab étouffée par le smog, un mélange de brouillard et de pollution. Y passer une journée équivaut à fumer 40 cigarettes. Juste après, nous rejoindrons l'envoyé spécial donc de RFI à Bakou. Débute aujourd'hui la conférence sur le climat, conférence qui durera 2 semaines. On fera le point avec elle sur le programme du jour. Au sommet également le conflit au Proche-Orient et Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien qui admet pour la première fois avoir donné son feu vert dans l'explosion des beepers du Hezbollah il y a 2 mois. La situation au Liban et à Gaza qui ont coûté très cher à Kamala Harris, la candidate démocrate à la présidentielle américaine, battue par Donald Trump la semaine dernière. Reportage dans ce journal à Dearborn, surnommée la capitale arabe des États-Unis.
Et alors que la COP29 s'ouvre aujourd'hui à Bakou, en Azerbaïdjan, où nous rejoindrons dans un instant Manon Chaplin, notre envoyé spécial, prenons d'abord la direction de la province du Pendjab au Pakistan.
Une région qui suffoque dans le smog, mélange de brouillard et de pollution. Espaces publics, parcs, zoos, aires de jeux, monuments historiques et écoles, tous sont fermés. La faute à l'indice de la qualité de l'air qui dépasse régulièrement 1000 à Lahore, sachant que le seuil considéré comme dangereux par l'Organisation mondiale de la santé est de 300. Reportage à Lahore de Sonia Ghezali.
Lahore est plongé dans un épais brouillard. Après quelques minutes à l'extérieur, le nez commence à être irrité, les yeux piquent. Les hôpitaux ont vu le nombre de patients ayant des difficultés respiratoires grimper en flèche depuis le début du smog. Ils sont 100% de plus ce mois-ci à l'hôpital Shalimar. Farharoun Nissa, âgée d'une trentaine d'années, est secouée de crises de toux.
J'ai des difficultés à respirer depuis que le smog a commencé. J'éternue beaucoup. Je passe la plupart du temps dans ma chambre, je ne vais même pas dans la cour parce que ça me coupe la respiration. Maintenant, je songe à partir de Lahore et à retourner dans mon village car c'est devenu très difficile de vivre ici pour moi.
Ce jour-là, l'indice de qualité de l'air est à plus de 1000. L'air est considéré comme dangereux à partir de 300. Le docteur Tahawakas, pneumologue, ne cache pas sa vive inquiétude. Selon lui, personne ne devrait sortir de chez soi.
L'indice de qualité de l'air actuel est dangereux, il est toxique. Il équivaut à l'inhalation de plus de 40 cigarettes par jour.
Et la situation s'aggrave d'année en année. En cause, la pratique du brûlis agricole répandue dans le Pendjab, mais aussi la pollution automobile et industrielle piégée dans le brouillard, particulièrement en saison hivernale. Sonia Ghezali, de retour de Lahore, Islamabad, RFI.
Une pollution difficilement supportable, des catastrophes naturelles de plus en plus meurtrières et destructrices. Dernier exemple en date, les récentes inondations au Sahel, mais aussi en Espagne, qui ont fait 220 morts. Les défis sont nombreux pour répondre à l'urgence climatique. C'est une question de vie ou de mort, prévient l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est dans ce contexte que s'ouvre aujourd'hui la COP29 à Bakou, en Azerbaïdjan, pays dont l'économie est basée sur la production de gaz et de pétrole. Bonjour Manon Chaplin.
Bonjour.
Envoyé spécial de RFI à Bakou, quel est le programme aujourd'hui pour l'ouverture de la conférence ?
Mais écoutez, ça commence avec la cérémonie officielle qui débute dans 1 heure, très exactement. Cette année, l'enjeu principal, c'est de s'accorder sur le financement du fonds pour la transition des pays du Sud, mais il y aura en parallèle des conférences, d'autres négociations, et ça commence dès cet après-midi. 67 000 personnes sont attendues au total sur les 11 jours que dureront cette COP29. Beaucoup de monde arrivait déjà depuis l'ouverture des portes ce matin. Des délégations arrivées de tous les continents, mais aussi des militants venus de leur propre initiative. On a croisé notamment des activistes antinucléaires ou encore un homme habillé en Père Noël qui vient à la COP depuis 10 ans, dit-il, pour offrir un avenir plus durable aux enfants. Alors l'événement majeur de ce début de semaine, c'est le sommet des chefs d'État qui se tiendra demain puis mercredi. Cette année, nombre de représentants ont fait le choix de ne pas venir, parmi lesquels Emmanuel Macron, Joe Biden, Vladimir Poutine, Lula ou encore Ursula von der Leyen. Cela agace la plupart des militants avec qui nous avons pu discuter jusqu'à présent. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas la raison de ces absences, qui auraient aimé que tous les chefs d'État sans exception se réunissent cette année encore autour d'une seule et même cause, la lutte contre le réchauffement climatique.
Merci beaucoup Manon Chaplin, envoyée spéciale de RFI à Bakou en Azerbaïdjan pour suivre cette COP29.
Et juste après ce journal, notre grand invité international, Celso Amorim, principal conseiller de Lula, le président brésilien. Rendez-vous à 7h20, heure de Paris.
En Haïti, ravagé par la violence des gangs, le conseil de transition qui souhaitait prendre la main sur plusieurs ministères régaliens contre l'avis de Gary Conny, le premier ministre, l'a limogé ces dernières heures. C'est donc Alix Didier Fils-Aimé qui a été choisi pour lui succéder. Une décision qui suscite déjà des réactions à Port-au-Prince. Les détails avec Peterson Luxama.
La seconde expérience du docteur Gary Conny à la tête de la primature se termine brusquement. Par un arrêté imprimé, pas encore publié officiellement, mais qui a déjà fuité, le CPT a mis un terme au mandat du Premier ministre. Un différend avec le Conseil présidentiel de transition au sujet d'un remaniement ministériel aurait précipité sa destitution. Le CPT voulait que les ministères régaliens, dont le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Finances, ne soient plus sous le contrôle du gouvernement. Mais Gary Conny n'a pas voulu céder, un dossier devenu explosif au sein du pouvoir de transition. Finalement, c'est le CPT qui a eu gain de cause. Alix Didier Fils-Aimé, homme d'affaires de renom, ancien candidat au Sénat, a été choisi pour succéder à Gary Conny à la primature. Gary Conny n'a pas tardé à réagir. Dans une lettre émanant de la primature, avec la signature du Premier ministre déchu, mais sans le sceau de l'institution, il dénonce une décision anticonstitutionnelle et illégitime, arguant que le CPT n'a pas l'autorité de destituer un chef de gouvernement en dehors du cadre légal. Pour lui, cette décision va à l'encontre des fondements démocratiques et ne respecte ni la Constitution, ni les accords encadrant la période de transition. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Le conflit au Proche-Orient à présent et au moins 41 personnes, dont 7 enfants tués hier dans des frappes israéliennes au Liban.
L'une d'elles a visé une maison dans laquelle se trouvait, selon l'armée israélienne, un membre du Hezbollah. 2 mois après l'attaque aux beepers et talkie-walkies contre le mouvement soutenu par l'Iran qui avait fait 39 morts et plus de 3000 blessés et qui n'avait jusqu'ici pas été revendiqué. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a finalement reconnu hier avoir donné son feu vert. Les explications à Jérusalem de Michel Paul.
Il faut rappeler d'abord qu'Israël n'a toujours pas revendiqué de manière officielle l'attaque aux beepers contre le Hezbollah, mais c'est un peu le secret de Polichinelle. Cela s'était passé les 17 et 18 septembre derniers. Pendant le Conseil des ministres de ce dimanche matin, c'est Benjamin Netanyahou lui-même qui a reconnu que son pays était derrière cette double attaque, les beepers et aussi les talkie-walkies. Des propos qui ont été soigneusement fuités par un conseiller de presse de Netanyahou, mais ce qui n'est pas moins intéressant, ce sont les circonstances qui ont mené à cette révélation. L'attaque aux beepers et l'élimination de Nasrallah ont été menées, affirme Netanyahou, malgré l'opposition de l'establishment militaire et de sa hiérarchie politique. Sans le nommer directement, le premier ministre israélien désigne ainsi son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, limogé la semaine dernière en raison d'une crise de confiance entre lui et Netanyahou. Michel Paul, Jérusalem. RFI.
L'ouest de Jérusalem où des incendies sont en cours en raison d'éclats d'intercepteurs ou de missiles, c'est ce qu'indiquent les pompiers ce matin.
Le conflit au Proche-Orient qui a pesé dans l'élection présidentielle américaine la semaine dernière.
Puisque le vote musulman et arabe a boudé parfois le parti démocrate, le reportage d'Abla Junaidi à Dearborn, surnommée la capitale arabe des États-Unis.
À Dearborn, la moitié des électeurs sont musulmans. Abed Hamoud est avocat. Il est originaire du sud Liban et a fondé il y a 25 ans le premier lobby de la communauté. Aujourd'hui, il est amer.
Je suis trahi parce que c'est mes frères et sœurs qui sont en train de se faire tuer. Je suis trahi en tant qu'Américain tout court parce que ce n'est pas les valeurs américaines et qu'on m'a appris depuis que je suis venu dans ce pays. Et je suis trahi en tant que démocrate. Moi, j'attendais que les républicains mènent des guerres comme ça.
Face au massacre au Proche-Orient, Nour et Sabrine, deux jeunes électrices d'origine irakienne, il n'était pas question non plus de voter Kamala Harris.
Elle aurait laissé la guerre continuer jusqu'à ce que tout le monde soit mort, des monceaux de cadavres, des enfants.
En tant que musulmans, nous attendons la justice. Le fait que la Palestine soit conquise par Israël a incité beaucoup d'entre nous à voter pour le Parti vert, parce qu'ils ne veulent pas être associés à quelqu'un de pro-Israël.
Plus que le Parti vert, c'est Donald Trump qui a fait une percée à Dearborn. Il a fait un saut ici à la fin de la campagne. Ce vote a séduit Michael, d'origine libanaise.
On dit que c'est le droit des femmes, mais je crois que l'enfant dans le ventre de la femme, on ne lui donne aucun choix. Donald Trump est pro-life, Kamala Harris pro-choice. C'est surtout pour ça que je n'ai pas voté pour Kamala.
Un énorme chantier attend le Parti démocrate tenté de reconquérir cet électorat en croissance. Abla Jounaïdi, Détroit, RFI.
Et notez que ce matin, Donald Trump a annoncé la nomination de l'ancien patron des douanes, Tom Homan, qui deviendra responsable de l'immigration, ou selon ses mots, tsar des frontières. Il était l'un des principaux avocats de la politique controversée de séparation des enfants de migrants clandestins et de leurs parents lors du premier mandat de Donald Trump.
RFI 8h10 à Maputo, au Mozambique. Ce décompte de l'ONG Human Rights Watch. Au moins 33 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations pour dénoncer des fraudes lors des élections du 9 octobre.
Élection officiellement remportée par le parti au pouvoir, mais revendiquée par le principal opposant, Venancio Mondlane, contraint de quitter le pays et qui se trouve désormais, selon lui, hors du continent africain pour des raisons de sécurité depuis l'assassinat de deux de ses proches. Cependant, ses partisans continuent de manifester. De son côté, le parti présidentiel Frelimo au pouvoir depuis l'indépendance joue la montre et maintient sa position inflexible face aux manifestants. Michel Cohen, directeur de recherche émérite du CNRS à Sciences Po Bordeaux, spécialiste du Mozambique.
Moi, je suis un peu soulagé parce que je m'attendais vraiment à un bain de sang, parce que le régime du Frelimo est prêt à tout pour garder le pouvoir. Cela fait 50 ans qu'ils sont au pouvoir, les mêmes familles sont au pouvoir depuis 50 ans, et là, en 2026, devraient commencer à arriver les royalties des énormes réserves de gaz qui viennent d'être retrouvées dans le nord du pays. Et donc, ce n'est pas à 2 ans de l'arrivée de l'argent que le Frelimo va abandonner le pouvoir. Donc, je pense que le Frelimo va réussir à garder le pouvoir et que, un par un, les pays de la communauté internationale vont accepter les résultats, dans la mesure où on est habitué à travailler avec le Frelimo et que l'opposition, c'est toujours un saut dans l'inconnu. Mais cela dit, le Frelimo sera très affaibli. Même si le Frelimo réussit à garder le pouvoir, ce n'est pas du tout un gage de stabilité pour le pays.
Des propos recueillis pour RFI par Sidi Yansane.
Nous sommes le 11 novembre, jour férié en France pour marquer la fin de la Première Guerre mondiale.
Et à cette occasion, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, est attendu aujourd'hui à Paris, où il doit participer aux commémorations, mais aussi discuter avec Emmanuel Macron de la guerre en Ukraine et de la réélection de Donald Trump aux États-Unis. L'amitié franco-britannique, l'entente cordiale qui fête ses 120 ans. Pour autant, les relations entre le gouvernement travailliste au pouvoir, la France et plus généralement l'Europe sont pour le moins compliquées. Le point avec notre correspondant au Royaume-Uni, Thomas Harms.
Keir Starmer veut mettre en avant une approche constructive et tourner la page des anciennes relations avec l'Europe. Le Premier ministre britannique veut un changement de ton des Européens, mais de son côté, Bruxelles attend tout simplement de savoir ce que Londres veut de l'UE. Starmer a bien rencontré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, mais seulement 3 mois après être entré au 10 Downing Street et rien de concret n'était sorti de cette réunion. Et depuis juillet, le Premier ministre n'a pas non plus nommé les 30 députés britanniques qui doivent faire partie de l'organe interparlementaire Grande-Bretagne et Union européenne. Un partenariat qui sommeille depuis 4 mois alors qu'il est censé veiller aux bonnes relations et à la coopération post-Brexit. Et au niveau des négociations aussi, rien n'avance. Alors avant de parler sécurité extérieure, relations économique ou encore de l'aide à l'Ukraine, l'éclaircissement de la position britannique se fait urgente, d'autant plus urgente avec l'élection de Donald Trump à la présidence américaine et un front commun, rappelle de nombreux élus britanniques de ce côté de l'Atlantique, est essentiel. Thomas Harms, Aberdeen, RFI.
Il est 7h13 à Paris, 6h13 temps universel.
Et c'était le journal d'Alban Le Prince. Merci à vous. Vous revenez tout à l'heure à 9h. Et tout de suite, le journal des sports avec Victor Missistrano à la une. Victor, le football européen, c'était soirée de derby hier à Lyon.
3 ans que les supporters attendaient de retrouver cette confrontation régionale face à Saint-Étienne, de retour en Ligue 1 cette saison. À domicile, c'est l'OL qui s'est logiquement imposé 1-0, but du capitaine Alexandre Lacazette dans son style caractéristique en renard des surfaces pour faire exulter le public lyonnais. Une atmosphère très particulière qu'a pu découvrir Moussa Niakate, le défenseur sénégalais arrivé cet été disputer son tout premier derby.
C'est juste extraordinaire. Ça fait moi je suis un suiveur de foot, donc je suis à la télé depuis tout petit. Les vrais Lyonnais, on va dire, de l'académie, nous ont parlé de ce derby pendant très 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 longtemps. Et le vivre, c'est autre chose, c'est juste exceptionnel. On avait du mal à résister, des fois on se prenait des buts ces derniers temps dans le temps additionnel. Aujourd'hui on n'avait pas le droit. Je pense que c'est le cas de dire, il y avait des lions sur le terrain. Oui, la deuxième mi-temps, elle était moins belle de nous, mais des fois, c'est le football, savoir gérer. On l'a bien fait ce soir, mais victoire amplement méritée.
Une victoire qui replace Lyon en 5e position du classement, juste derrière Lille. Le LOSC tenu en échec à Nice de partout. Paris est donc seul en tête, le PSG qui compte 6 points d'avance sur Monaco.
Victor, il y avait un autre derby hier en Angleterre.
Oui, l'un des nombreux derbys londoniens. Chelsea recevait Arsenal à Stamford Bridge. Pas de vainqueur, match nul, un but partout. Les Gunners ont ouvert le score à l'heure de jeu grâce au brésilien Gabriel Martinelli. Réaction des Blues, 10 minutes plus tard, une frappe limpide du portugais Pedro Neto. C'est le 4e match consécutif sans victoire d'Arsenal. L'entraîneur Mikel Arteta garde de tout de même quelques motifs de satisfaction.
Notre équipe a montré un beau visage après le but que nous avons encaissé de manière inacceptable. Nous avons été bons face à une équipe dominatrice. Malheureusement, à la fin, nous n'avons pas réussi à concrétiser nos dernières occasions pour remporter la victoire.
Arsenal et Chelsea qui sont au coude à coude avec 19 points et ne profitent pas de la nouvelle défaite de Manchester City qui compte 23 unités. Liverpool fait la course en tête dans cette première ligue avec 28 points.
On poursuit notre tour d'Europe en Italie.
Oui, premier et deuxième avant cette journée. Naples et l'Inter Milan se sont quittés sur un score de parité. Un but partout. Le Napoli qui reste leader de la Serie A, mais c'est extrêmement serré. 6 équipes se tiennent en 2 points. Et puis en Espagne, fin de série pour le FC Barcelone. Les Catalans n'avaient plus perdu depuis fin septembre. C'est chose faite, revers 1-0 hier sur le terrain de la Real Sociedad. Le Barça conserve 6 longueurs d'avance sur le Real Madrid qui compte un match en moins.
Et puis en tennis, Victor, les 8 meilleurs joueurs de l'année sont réunis à Turin pour le dernier grand rendez-vous de la saison.
Oui, la ville italienne accueille le Masters ATP. Hier à domicile, le numéro 1 mondial Yannick Sinner a tenu son rang. Il a remporté son premier match facilement en deux manches, 6-3, 6-4 contre Alex de Minaur.
Victor Missistrano et le journal des sports sur RFI. À tout à l'heure, Victor, vous revenez à 8h42, il me semble. C'est bien ça. À tout à l'heure.
RFI Matin.
La conférence annuelle de l'ONU sur le climat, la COP29, démarre aujourd'hui en Azerbaïdjan. Événement censé œuvrer à contrer le réchauffement climatique, un sujet éminemment économique. Et on s'intéresse justement ce matin au financement climatique et au rôle des banques dans le risque climatique qu'elles disent combattre. C'est aujourd'hui l'économie sur RFI. Bonjour Anne Verdaguer.
Bonjour.
Alors Anne, concrètement, en continuant de financer l'industrie fossile, les banques sont régulièrement pointées du doigt. Une ONG va encore plus loin et explique qu'elles mettent en péril toute possibilité de transition énergétique.
Oui, dans un rapport publié à la veille de l'ouverture de cette COP29, l'ONG Reclaim Finance a passé au crible les transactions de 20 grandes banques européennes depuis 2021 et note près de 1000 transactions auprès de grands groupes tels que Total Energy, Shell ou BP. Si les banques affirment soutenir ces entreprises pétrogazières pour les accompagner dans leur transition énergétique, leurs financements vont majoritairement aux activités fossiles et notamment aux nouveaux projets de terminaux GNL. La parade est simple et s'appelle le financement corporate, qui revient à financer l'entreprise qui développe le projet et non l'infrastructure. C'est ainsi qu'elles affirment ne participer à aucun projet lié aux hydrocarbures de manière directe, alors qu'elles sont impliquées dans nombre de bombes carbone, ces méga projets d'extraction de combustibles fossiles. Les institutions financières se défendent en affirmant que les énergies fossiles continuent de jouer un rôle important dans le mix énergétique mondial, avec une demande croissante, un argument qui est aussi régulièrement avancé par les producteurs d'énergie.
Et pourtant, ces financements comportent aussi un risque pour le secteur financier lui-même.
La Banque de France a en effet elle-même publié un rapport dénonçant des conséquences sur les marchés ou encore le crédit, car le réchauffement climatique qui génère des phénomènes météorologiques de grande ampleur et plus fréquents, on l'a vu récemment en Espagne, déstabilise aussi les tissus économiques locaux et peut fragiliser tout le système financier via les actifs dont la valeur peut très vite se dégrader. Le secteur financier a donc tout intérêt à s'engager pleinement dans cette transition sous peine d'un contre-coup très dur.
Alors Anne, il n'y a pas que les banques qui sont mises en cause. Les subventions des pays développés aux combustibles fossiles explosent-elles aussi ?
Oui, ces pays riches ont dépensé 6 fois plus sur 12 ans en subventions pour les combustibles fossiles qu'ils ne se sont engagés dans le financement international contre le changement climatique. C'est ce qu'affirme l'ONG One, qui estime que les subventions accordées chaque année par les économies avancées vers le fossile couvriraient près de la moitié du déficit public de financement international pour le climat en direction des économies en développement à l'exclusion notable de la Chine. L'Azerbaïdjan, hôte de la COP29 cette année, est le pays le pire en la matière. Toujours selon cette étude, il s'est illustré ces 12 dernières années avec des subventions 1800 fois plus élevées aux combustibles fossiles qu'au financement climatique.
Anne Verdaguer et aujourd'hui l'économie sur RFI. Merci beaucoup, il est 7h20 à Paris. Lors de notre grand invité international ce matin, à l'occasion du début de la COP29, Arnaud Pontus, vous interrogez Celso Amorim, conseiller en chef du président brésilien.
Bonjour à vous, Celso Amorim.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RFI. C'est un plaisir pour moi aussi. 6 jours après l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, on se pose encore beaucoup de questions sur les conséquences de ce retour. Est-ce que vous êtes inquiet ?
Bon, évidemment, l'avenir, c'est toujours une chose difficile à prévoir, alors on n'est pas sûr. Mais j'aurais l'espoir que disons que nous aurons président Trump un peu plus mûr et un peu plus conscient des effets globaux de ses actions et aussi plus pragmatique. Enfin, il faut voir les choses comme elles sont. Alors, je donne seulement un exemple.
Oui.
Il y avait des grands doutes sur la question de possibilité de rapport entre Lula et Bush, et ça s'est très bien passé, même s'il y avait des positions opposées sur l'Irak ou sur d'autres questions.
Oui, alors justement, vous parlez des rapports entre les deux présidents, entre Trump et Lula. Est-ce qu'il sera possible d'entretenir une relation apaisée ?
Non, je pense non seulement que ce sera possible, qu'il est désirable, mais qu'il va se passer. La force de la réalité est très grande. Mmh. Le Brésil est un pays important qui a une présence très grande dans le monde dans plusieurs dossiers. Et je pense que le président Trump a une certaine appréciation pour les leaders qui sont forts, qui sont déterminés, qui ont une clarté de vision. Et ça, je pense que c'est le cas du président Lula.
Oui, on sait tout de même que au Brésil, l'ami du président Trump, c'est plutôt Jair Bolsonaro.
Bon, mais vous savez, il y a un dicton. Des amis sont des amis, mais des affaires sont des affaires. Et entre les deux pays, il faut avoir surtout, dans une certaine mesure, une coïncidence d'intérêt dans des grandes questions globales.
Vous voulez dire que les éventuels différends entre les hommes vont être oubliés au profit de leurs pays respectifs ?
Je pense que l'intérêt des pays va prévaloir. Je pense à ce sujet que l'expérience qui a été accumulée par le président Trump et par Lula aussi, ce sont les deux plus grands pays de l'Amérique.
Bien sûr.
Il faut qu'ils se comprennent. Il faut qu'ils soient capables d'agir ensemble.
Oui. Alors, il y a bien sûr les rapports personnels entre les hommes. Il y a les questions très concrètes. On sait que le président américain veut imposer de nouvelles barrières douanières, 10% de taxes sur les importations, sur tout ce qui arrivera aux États-Unis. Ça peut être très lourd comme conséquence pour le Brésil.
Je pense que ça sera au détriment des États-Unis en réalité, parce qu'aujourd'hui, notre plus grand client commercial, c'est la Chine. Pour nous, l'idéal, c'est d'avoir un commerce équilibré avec l'Europe, la Chine, les États-Unis. Et je pense qu'évidemment, ça va rendre les produits qui utilisent l'acier, par exemple, l'acier brésilien, plus cher aux États-Unis.
Plus cher aux États-Unis. Oui. Donc, ça n'est pas dans l'intérêt des États-Unis, c'est ce que vous nous dites.
Oui.
Mais est-ce que le Brésil pourrait se détourner des États-Unis en raison de ces barrières et de ces taxes?
Le Brésil veut se rapporter avec un monde multilatéral et multipolaire. Mmh. On a des bonnes relations avec les États-Unis, des bonnes relations avec l'Europe, mais il faut comprendre que nos exportations à la Chine sont plus grandes que des États-Unis et Europe ensemble, que nos exportations aux États-Unis et Europe ensemble. Alors, c'est pas une question de se détourner, il faut au contraire avoir une relation relation plus proche avec les États-Unis.
Celso Amorim, vous parliez à l'instant de l'Europe. Il y a ce dossier, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Est-ce que le Brésil souhaite une signature rapide de cet accord ?
Nous souhaitons une signature sûre, sur laquelle il n'y aura pas de doute et avec une bonne application. Évidemment, le plus rapide qu'on puisse faire, si c'est sûr, c'est le mieux.
Ce sera le mieux, le plus rapide sera le mieux. Vous savez bien, et vous êtes en France, que la France bloque l'accord parce que, de son point de vue, il n'est pas assez respectueux de l'environnement et trop dangereux aussi pour l'agriculture française. Est-ce que vous comprenez ces réticences de la France ?
Bon, je comprends parce qu'elle m'a été exposée plusieurs fois, oui. Mais j'ai des difficultés, disons, à voir les implications. Une fois, je dis à un ministre, un ancien ministre des Affaires étrangères français, qu'il n'y a que 2% de la population française qui dépend de l'agriculture. Ils sont très peu. Et il m'a dit, mais ils sont très méchants.
Enfin, ah, alors... ils sont très méchants. Oui, parce que du fait de la signature prochaine de cet accord, on sait que les agriculteurs français ont déjà annoncé que peut-être il rebloquerait le pays ou mènerait des actions.
Il n'y a pas de grandes concessions. La chose la plus importante que nous voulons avoir, voilà, ça fait partie aussi de notre vision du monde multipolaire. Oui. Enfin, on veut de bonnes relations avec la Chine. Le président Xi Jinping va au Brésil pour une visite d'État juste après le G20. Nous voulons de bonnes relations avec les États-Unis, mais sans l'Europe et sans l'Afrique, mais l'Afrique c'est un autre dossier, ça reste incomplet. Alors c'est pour nous très important d'avoir un certain équilibre, pas seulement commercial, mais aussi politique, et je pense que les deux choses ensemble.
Est-ce que le Brésil est prêt à faire des concessions en entendant les réticences de la France ?
On a fait beaucoup de concessions déjà, oui.
C'est déjà fait ?
On a fait des concessions. Le Brésil vient de faire une grande avancement dans notre position pour l'environnement.
Oui.
Mais c'est à nous de décider. C'est pas, on peut pas transférer la responsabilité et les sanctions en pays étranger, soit les États-Unis, soit la Chine, soit la France.
Vous parliez d'environnement à l'instant. La lutte contre le réchauffement climatique, c'est toujours l'une des grandes priorités du président Lula.
Oui, une grande priorité. On vient de faire, je ne sais pas comment traduire ça en français, le nationally determined commitment, l'engagement national,
oui.
Qui est un des plus élevés du monde. Le Brésil est un des nombres réduits des pays qui a déjà fait ça, et que ça représente presque 1 milliard de tonnes de carbone.
De carbone qui sont retirées, d'émissions à effet de serre.
Outre ce que nous faisons pour la conservation de la forêt. Ça, c'est des réductions nettes.
Ça, c'est un grand acquis hein, depuis l'élection de Lula, déforestation de l'Amazonie brésilienne qui a chuté de 30%.
Qui a baissé beaucoup.
Ouais. Vous espérez quelque chose de particulier de la COP29 qui s'ouvre en Azerbaïdjan ? On sait que la COP30, ce sera au Brésil. Est-ce que le Brésil a des attentes particulières autour de cette conférence sur le climat ?
Bon, évidemment, on désire que ce soit un succès, pas seulement pour le Brésil, mais pour le monde. C'est une seule planète, c'est où nous vivons. Il faut absolument qu'il soit un succès. Ça, c'est un point important où le Brésil et la France peuvent être ensemble pour convaincre quelques pays qui sont plus réticents sur ce sujet.
Dans une semaine, le Brésil va accueillir le sommet du G20 à Rio. On sait que votre pays souhaite une taxe mondiale sur les super-riches, sur les milliardaires. Est-ce que vous pensez qu'un accord est possible sur un sujet qui est aussi délicat que celui-là ?
Je ne pense que ça doit être délicat.
Non,
ça,
non,
je pense que c'est évident. Oui. Je pense que c'est une question de honte personnelle d'avoir tellement de richesses dans un monde où il y a beaucoup de misère. Mais de toute façon, c'est un premier pas, c'est de mettre un accord pour faire un travail qui aura encore des conséquences. Je pense que c'est possible.
Si je vous entends bien, c'est une question morale.
Morale et politique.
Merci à vous, Celso Amorim,
merci
d'avoir été sur RFI.
Merci.
Et bonne journée.
Le conseiller en chef du président brésilien Lula, Celso Amorim, il répondait aux questions d'Arnaud Pontus. Entretien à retrouver sur notre site RFI.fr.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. aujourd'hui.
Nous vous proposons de réentendre l'émission que nous avions consacrée au groupe de parole.
Demain.
Comment le jeûne intermittent agit-il sur le poids et le vieillissement?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 71 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
L'exposition Déplacement et Torrent, là où le Dnipro et l'Elbe se rencontrent, jusqu'au 18 janvier 2025 à la Cité internationale des arts à Paris, donne à voir la place des artistes des pays dits socialistes et post-socialistes dans le paysage culturel français. Déplacement et Torrent, là où le Dnipro et l'Elbe se rencontrent, jusqu'au 18 janvier 2025. Plus d'informations sur citedesartsparis.net. En partenariat avec France Média Monde.
Bonjour, c'est Tiken Diafakouli. Ce mercredi 13, je serai avec vous toute la journée sur RFI.
Le 13 novembre, Tiken Diafakouli est l'invité spécial de RFI.
Et le soir, je vous invite, vous les auditeurs, à mon concert.
À 19h41, ne manquez pas le concert du reggaeman panafricain en direct de la salle Playel à Paris.
Rastafari, African Revolution.
It's the Africa, Africa.